Bon matin, ça va bien? Ouais, on n'est pas trop nombreux, hein? Les gens sont en retard, dis peux-tu? Bon. OK. On va commencer avec une petite révision. Ça va permettre aux retardataires de se joindre à nous. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Est-ce que quelqu'un peut me dire quel aspect du royaume de Dieu on a vu la semaine dernière? Juste en passant, quoique je vais peut-être attendre avant de... Je vais devoir le répéter. Vous avez peut-être remarqué que vous n'avez pas reçu vos courriels. J'ai eu un petit problème informatique. J'ai perdu mon programme de courriel. Donc, j'ai perdu vos adresses courriel. Et donc, je vais essayer de les récupérer, mais ça se peut que je dois vous redemander à tous vos courriels pour pouvoir vous les renvoyer. J'ai quelques copies ici en avant. Évidemment, les copies, on les réserve encore à ceux qui n'ont pas Internet. Pour ceux qui ont Internet, je vous rappelle que la leçon est aussi disponible sur le site de l'Église. Vous allez sur la page principale et en bas complètement, vous avez « Instructions chrétiennes ». Vous cliquez sur « Instructions chrétiennes » et vous allez voir les différents cours. Mon cours est là et vous pourrez télécharger, vous pouvez écouter le message en audio et vous pouvez aussi télécharger les notes. Donc, pour ceux qui n'ont pas reçu mes notes, je vous demande en attendant d'aller voir. Mais c'est parce que c'est pour ceux qui ne le recevaient déjà pas. Alors, je vais te demander d'aller voir sur le site de l'Église pour le télécharger. Je ne l'ai pas envoyé parce que mon courriel ne marchait pas. J'ai dû utiliser Gmail pour envoyer à Samuel pour qu'il puisse le mettre sur Internet. Pour ça qu'il y a Dropbox maintenant, oui, c'est ça. En fait, je commence à trouver beaucoup d'avantages au nuage. Je pense que je vais me convertir au nuage pour essayer d'éviter que ces choses-là se reproduisent. En attendant, il y a des notes ici pour ceux qui sont habitués aux notes. Et le site Internet, donc, va vous donner des notes pour ceux qui veulent les avoir chez eux. Donc, je vous posais la question, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? La semaine dernière, on a parlé de quel aspect du royaume de Dieu? Faire appel à votre mémoire. Un petit effort, mais vous donnez le temps d'y réfléchir. On a parlé de la vie du royaume. On a parlé de la vie éternelle. N'est-ce pas? Quel aspect fantastique. On a vu que la vie éternelle, le royaume de Dieu, le royaume des cieux et même le salut étaient tous des synonymes qui étaient réservés à l'avenir pour ceux qui croyaient en Jésus. On a vu aussi que la vie éternelle était pour l'avenir, justement. Donc, un jour, on va recevoir un édifice, un ouvrage fait de Dieu. Donc, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, plutôt, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et on a vu que cet édifice-là n'était pas une maison, mais était bien un nouveau corps qu'on était pour recevoir pour l'éternité. Ensuite, on a regardé ensemble qu'est-ce que ça voulait dire un corps spirituel. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent un petit peu des différentes caractéristiques du corps spirituel qu'on a parlé la semaine dernière? Un corps incorruptible, oui. D'autres aspects. De quoi il était composé, ce corps-là? Ou de quoi il n'était pas composé, en tout cas, d'une manière certaine? De lumière? On a dit que peut-être il y avait des possibilités que le corps soit rayonnant comme le visage de Moïse. C'est une possibilité. On n'a pas de certitude là-dessus, mais ça se peut. Oui. Ah, on a parlé d'âme et d'esprit, effectivement. On a parlé que le corps qu'on habite présentement, cette tente, ce corps temporaire qu'on habite présentement, était un corps animal, donc un corps qui était animé par une âme. Et que le corps spirituel qu'on va recevoir va être un corps qui va être animé par l'esprit, qui va être dirigé par l'esprit, qui va être conçu pour fonctionner avec l'esprit. Hein? Le corps qu'on a présentement, il y a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le corps qu'on va avoir pour l'éternité n'aura pas ces désirs contraires. Il va avoir les mêmes désirs que l'esprit. C'est encourageant, je trouve. On a vu donc qu'un corps spirituel n'était pas un corps composé d'esprit, comme un corps animal n'était pas un corps composé d'âme. Mais que le corps spirituel qu'on aura va être aussi réel et tangible que celui qu'on possède présentement, mais il va être conçu différemment, donc pour être habité par l'esprit et pour être animé par l'esprit. Ça, c'était l'aspect un petit peu éternel de la vie éternelle, l'aspect à venir plutôt de la vie éternelle, mais on a vu aussi que la vie éternelle était pour maintenant. Alors, on a comme défini un petit peu la vie éternelle. On a vu que la vie éternelle, d'abord, suivait la même structure que l'âge présent et l'âge à venir, que le royaume présent et que l'âge à, et que le royaume à venir. Et donc, que la vie éternelle était à la fois présente et à la fois future. Oui, on va hériter la vie éternelle à la fin des temps, mais présentement, on a la vie éternelle. Et c'est là, donc, qu'on a défini un petit peu, c'était quoi la vie éternelle? En quoi est-ce qu'on goûte présentement la vie éternelle? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me faire donner une réponse là-dessus? S'ils sont sûrs. La vie éternelle, c'était de connaître Dieu, nous dit Jésus. Et donc, lorsqu'on entre en communion avec Dieu, lorsqu'on est de nouveau, déjà en partant, parce que sans la nouvelle naissance, on n'a pas cette communion-là. Lorsqu'on est de nouveau, on entre dans cette nouvelle vie-là, dans une nouvelle relation avec Dieu. Et ça, c'est le début de la vie éternelle, puisque c'est ça qu'on va connaître pour l'éternité. Et donc, si on veut goûter le plus possible à la vie éternelle, on se doit de chercher de plus en plus cette relation avec Dieu, cette présence de Dieu, cette soumission à Dieu, cette communion avec Dieu, vous comprenez? C'est la seule façon de goûter maintenant la vie éternelle. Ça va être ça qu'on va connaître pour l'éternité. Et par le Saint-Esprit, on a donc ce privilège, cette possibilité de goûter à la vie éternelle. Et on a vu qu'on avait reçu une preuve de notre vie éternelle, que la vie éternelle n'était pas seulement qu'une espérance à venir, qu'on n'était pas seulement sauvé dans l'avenir, mais qu'on était sauvé maintenant et qu'on avait reçu une preuve maintenant. Et quelle était donc cette preuve qu'on a vue la semaine dernière? C'est difficile, hein? Les arts. Voilà, pas les arts A-R-T, mais les arts, comment ça s'écrit ça? A-R-R-H-E-S, eh oui, c'est un mot qu'on utilise trop peu souvent. Et on a vu que les arts, c'était comme un dépôt. N'est-ce pas? C'était un acompte dont on pouvait utiliser maintenant, mais qui était juste une petite partie de ce qui était pour de ce dont on va hériter dans l'éternité. Donc, une possession actuelle, mais bien réelle, quoique partielle, qui nous garantit la pleine propriété en temps voulu. Donc, la vie éternelle est pour l'avenir, la vie éternelle est pour maintenant. Et on peut goûter cette vie-là et on a cette assurance de notre salut, d'abord parce qu'on goûte à cette communion avec Dieu, mais aussi parce que le Saint-Esprit qui a été versé en nous est un dépôt et une assurance de ce qu'on va hériter dans l'avenir. Alors, cette semaine, on va voir un autre aspect, encore une fois, du royaume de Dieu. On est déjà rendu à la leçon 7. Et on va se tourner vers le sermon sur la montagne cette semaine. Le sermon sur la montagne traite d'un autre aspect du royaume de Dieu. Et selon vous, le royaume de Dieu? Et là, il n'y a personne qui a eu mes notes, alors vous comprenez que je fais vraiment, vraiment appel à votre sens, à votre connaissance biblique ici. De quoi nous parle le sermon sur la montagne? Pardon? Les béatitudes, oui, intéressant. C'est comme ça qu'ils sont définis le plus souvent. Le sermon sur la montagne nous parle de la justice du royaume de Dieu. La justice du royaume de Dieu. Matthieu 5 nous montre l'importance de cette justice-là, nous montre comment c'est essentiel, comment elle est essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 5, 20, on l'a vu déjà, nous dit, « Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, pour entrer dans le futur royaume, ça nous prend une justice qui est présente. On doit déjà s'être acquis cette justice nécessaire pour entrer dans le royaume. Une justice qui est plus grande que celle des scribes et des pharisiens. Mais de quelle justice est-ce que Jésus veut bien parler? D'abord, on le sait, la Bible nous enseigne que nul ne peut se justifier par ses propres œuvres. Vous connaissez, évidemment. On sait qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Romains 3, 10 nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Psaume 14, psaume 53 nous disent la même chose. Romains 10, 3 nous dit « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Il parle des hommes en général. Dans Isaïe 64, 5 ou 6 nous dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Donc, on connaît déjà la doctrine. De toute façon, il n'y a pas de doute. Nul ne peut se justifier par lui-même. Il n'y a pas rien qu'on peut faire pour être juste devant Dieu. Puisque notre justice va toujours être insuffisante, qu'est-ce que Dieu doit faire pour nous donner cette justice-là, ou pour nous accorder cette justice-là, ou pour qu'on reçoive cette justice-là? D'après vous? Exactement. Il y a uniquement Dieu qui pouvait donner ce qu'il exige lui-même. Okay? Puisque c'est impossible pour moi d'être juste devant Dieu, Dieu réclame une justice pour entrer dans le royaume de Dieu. Cette justice-là doit donc venir de Dieu lui-même, puisqu'il n'y a aucun autre moyen pour moi d'acquérir cette justice-là. Pardon? Elle doit être parfaite, et ma justice à moi est n'est pas parfaite. La justice requise pour entrer dans le domaine futur du royaume de Dieu est la justice qui résulte du règne de Dieu dans nos vies. Alors, on a parlé du royaume de Dieu, on a déjà établi que c'était le règne de Dieu dans notre vie. Et lorsque Dieu règne dans notre vie, il en résulte une justice. On devient juste devant Dieu lorsque Dieu règne dans nos vies. Dans Matthieu 5, 20, Jésus met en contraste la justice des scribes et des pharisiens et la justice qu'on doit avoir pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, on en a déjà parlé aussi, mais c'est, imaginez le choc des auditeurs qui considèrent déjà les scribes et les pharisiens comme des gens très justes, et Jésus qui leur dit que notre justice doit être supérieure à ça. Alors, comment est-ce que la foule percevait la justice des scribes et des pharisiens? D'abord, la tâche principale des scribes, je ne parle pas des pharisiens, là, je parle des scribes, était de sonder les Écritures. C'était leur tâche, leur rôle. Ils ne faisaient que ça. Je sonde les Écritures. Et leur objectif était de définir qu'est-ce qui était juste ou non. Alors, ils voulaient une définition du bien et du mal pour toutes les situations possibles et imaginables. Et pour cela, il avait compilé une énorme masse de traditions qui était d'abord transmise oralement et qui a été mise par écrit par la suite, qui fournissait donc cette définition de la justice. Et on trouve ça dans la Mishnah. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la Mishnah? Non? Le Talmud? Vous avez déjà entendu parler du Talmud? Le Talmud est arrivé après la Mishnah. Le Talmud inclut la Mishnah et un autre texte qu'on appelle la Gemara. Bref, tout a commencé donc avec la Mishnah. Et dans ce recueil de lois, il ne faisait pas que donner la loi, il essayait de donner toutes les situations du quotidien où tu avais le droit de faire ceci, tu n'avais pas le droit de faire cela. Et tout ça dans le but, évidemment, de respecter la loi de Dieu et donc d'être trouvé juste. Parce que la loi dit que celui qui accomplit la loi va être justifié par elle. Hein? Celui qui va accomplir la loi va vivre par la loi. C'est ça qui est écrit. Maintenant, on le sait aujourd'hui, avec la révélation qu'on a, que la loi ne peut pas nous rendre juste, puisque le but de la loi était de nous rendre conscience, de nous rendre conscients de nos propres péchés. Hein, vous connaissez ces textes du Nouveau Testament qui nous parlent de ça. Donc, mais bref, pour le scribe, sonder les Écritures, découvrir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, et l'appliquer le plus possible à toutes les situations possibles du quotidien pour que le disciple sache qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Les pharisiens, eux autres, qu'est-ce que c'était? Les scribes, c'était les docteurs de la loi, c'était ceux qui sondaient les Écritures, qui établissaient ce qui était juste. Les pharisiens, eux autres, c'était quoi? Le tribunal, les pharisiens, tribunal? Non. Ça, c'était le Sanhédrin, oui, c'est une bonne observation. Les pharisiens, on entend souvent parler, les pharisiens. Paul était un pharisien. Écoute, c'était des religieux, c'était des observateurs de la loi, c'était en réalité les disciples des scribes. Les scribes définissent c'est quoi la loi, les pharisiens disent « Ah, moi, suive-moi, moi faire ce que tu me dis. Je vais, effectivement, c'était la secte religieuse qui était la plus rigide, celle qui observait le plus la loi, parce que c'était directement des disciples des scribes. Les scribes définissent la loi, les pharisiens l'appliquent. On va vous montrer, nous autres, comment ça marche. On est bon. Oui? Est-ce qu'il était une généralité, tu veux dire, est-ce que les pharisiens étaient majoritaires? C'est une très bonne question. Je pense pas qu'ils étaient majoritaires, parce qu'on le sait qu'il y avait quand même deux sectes majoritaires. Il y avait les pharisiens et les sadducéens. OK? Est-ce que les pharisiens étaient majoritaires? Je pourrais pas te dire, Linda, sérieusement. C'est une bonne question, il faudrait vérifier. Mais certainement qu'il était important et reconnu par la population. Okay, parce que la population était juive. Donc, était pas. Les pharisiens, c'était une secte, comme les sadducéens étaient une secte. C'était des gens qui faisaient vœu, si tu veux, de suivre la loi ou de marcher d'une manière particulière avec Dieu. OK? Et tu avais le peuple à travers tout ça. Mais c'était une secte, évidemment, qui était très reconnue, qui les gens les regardaient comme étant « Wow! » Eux autres, là, ils savent c'est quoi la loi. Puis eux autres, ils l'appliquent, heureusement. Alors, les pharisiens étaient des observateurs de la loi et voulaient être trouvés justes, évidemment, devant Dieu. C'était leur objectif. Okay? Il faut comprendre que dans un système religieux dans lequel le salut dépend de l'observation de la loi, connaître ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, c'est capital. Vrai? Si moi, mon salut dépend de mon observation de la loi, puis que je veux être sauvé, c'est clair que je vais chercher c'est quoi que je peux faire et c'est quoi que je ne peux pas faire, parce que je ne veux pas pécher contre la loi. Si je pêche contre la loi, il va falloir que je ferai un sacrifice, puis etc. Okay? Donc, c'est fondamental. Et c'est ce que les Juifs, pas les Juifs, mais les pharisiens faisaient ici. Les scribes et les pharisiens ne laissaient rien au jugement personnel ou à la direction du Saint-Esprit. Ils voulaient une définition du bien et du mal pour toutes les situations possibles. Par exemple, la loi interdit de travailler le jour du sabbat. Vrai? C'est clair, il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Alors, afin de s'assurer de respecter le commandement de Dieu, les rabbins ont défini avec force et détail qu'est-ce qui constitue un travail. Ainsi, il est proscrit à tout observant juif d'effectuer le moindre travail le jour du sabbat, ainsi que 39 autres activités qui en découlent, comme couper, coudre, déchirer, écrire, tracer, allumer un feu. Et aujourd'hui, les juifs, même, n'ont pas le droit d'allumer la lumière. Ils n'ont pas le droit d'allumer une switch on-off, là. C'est un travail. C'est pas des jokes, là, que je vous raconte, là. Et je vous donne une illustration qui motivait un petit peu leur recherche de savoir qu'est-ce qui était juste. Alors, imaginez la situation suivante. Alors, moi, je suis juif, et en revenant du culte un jour du sabbat, j'aperçois une feuille morte dans un rosier à côté de l'allée. Je m'arrête et je cueille la feuille morte. Est-ce que j'ai travaillé? Probablement pas. Exagère pas quand même, là. Hein? Non, pas nécessairement. Non, puis en fait, point pas nécessairement. Tu n'as pas travaillé si tu as fait ça. Ils vont définir le travail. Malheureusement, je n'ai pas une réponse claire à dire où ils déterminent, là, mais je peux te dire qu'il y a une limite. Le fardeau que tu portes, il y a une limite. Le nombre de pas que tu as le droit de faire marcher sans que ça devienne un travail, ils ont calculé ça, là. OK? Mais bref, admettons que je vois le rosier, il y a une feuille morte, je ramasse la feuille morte. Est-ce que j'ai travaillé? Probablement pas. Je vois une tige morte à côté. Je casse la tige. Est-ce que j'ai travaillé? Probablement pas, quand même. Puis je vois une autre branche que je ne peux pas la casser parce qu'elle est un petit peu trop grosse. Je sors mon couteau, puis je la coupe avec un couteau. Oh là, j'ai utilisé un outil, par exemple. Peut-être que j'ai commencé à travailler. Voyez-vous? Pas sûr, par exemple. Mettons que je n'ai pas travaillé. Est-ce que j'ai enfreint le sabbat? Alors, il y a une branche encore un peu plus grosse, comme mon pouce. Elle est trop grosse pour mon couteau, fait que je m'en vais chercher mon sécateur pour la couper. Est-ce que j'ai vraiment travaillé? Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai taillé tout mon rosier. Est-ce que j'ai travaillé? Alors, les rabbins, en fait, les rabbins, les scribes, de l'époque, déterminait vraiment à partir de où, là, c'est un travail. Comme je vous dis, le nombre de pas que tu avais le droit de faire, même il y a encore ici à Montréal les Juifs hassidiques qui respectent le sabbat, ils ont un certain nombre de coins de rue là, qui ont le droit de marcher. Plus que ça, c'est un travail, ils n'ont pas le droit. Puis les lumières, là, il faut qu'ils les laissent ouverts le vendredi soir parce qu'ils ne peuvent pas les allumer le samedi. Bref, la foule donc, et vous comprenez avec un exemple comme ça, comment la foule pouvait considérer que les scribes et les pharisiens étaient des modèles de justice. Et pourtant, Jésus leur dit que leur justice est insuffisante et qu'on doit être plus juste qu'eux. Et il ajoute dans Matthieu toujours 6:33 qu'on doit d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Alors imaginez la confusion des auditeurs. Alors, de quelle justice il s'agit? La justice qu'on obtient dépend de la loi à laquelle on se soumet. La justice qu'on obtient dépend de la loi à laquelle on se soumet. La justice des scribes et des pharisiens s'obtient en observant la loi de Moïse. Vous êtes d'accord? Tu observes la loi de Moïse, tu as la justice que procure la loi de Moïse. Si j'observe la loi du gouvernement canadien, j'ai la justice que me donne la loi du gouvernement canadien. La justice du royaume s'obtient en observant la loi du royaume. Il y a une loi. En observant cette loi-là, on obtient la justice associée à cette loi-là. Pour obtenir la justice du royaume, je dois me soumettre à la loi du royaume. Comprenez-vous? Maintenant, c'est bien beau, bien facile à dire, mais quelle est donc cette loi? On connaît la loi de Moïse, mais quelle est donc la loi du royaume? Et c'est ce que Jésus est venu faire, notamment dans sur la montagne, lorsqu'il a donné le sermon sur la montagne. Jésus nous parle de la justice du royaume et nous donne des exemples de la justice du royaume. Alors, la loi de la justice du royaume et de la loi du royaume. Donc, la loi du royaume, Jésus nous parle de la loi de la colère. Alors, Matthieu 5, 21, Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Évidemment, la loi condamnait le meurtre. Vous êtes d'accord? Même nous ici, on condamne le meurtre, c'est évident. Mais Jésus va beaucoup plus loin que ça. Au verset suivant, il dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Celui qui dira à son frère « Raca » sera justiciable du Sanhédrin, l'organisme qui s'occupait de faire respecter la loi. Celui qui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Donc, l'enseignement des scribes insistait sur une action qui est extérieure, n'est-ce pas? L'enseignement de Jésus dit que Dieu regarde au cœur, que Dieu regarde au motif. La justice du royaume dit que ce que tu es est plus important que ce que tu fais. La justice du royaume dit que ce que tu es est beaucoup plus important que ce que tu fais. La loi de Moïse disait « tu ne tueras pas ». La loi du royaume dit « tu ne te mettras pas en colère contre ton prochain ». Le meurtre, c'est une colère qui est arrivée à son développement suprême. Si je me mets en colère contre Gérard, bon, c'est sûr qu'en le regardant comme ça, on pourrait me comprendre. Hein? Non, qu'est-ce que je raconte là?
Tu t'excites à ça.
Oui, c'est ça, tu sais. T'es responsable. OK? Bon, Gérard est responsable. Non, c'est pas ça que je veux dire. Comprenez-moi bien. Si je me mets en colère contre Gérard et que je contiens ma colère, j'irai pas plus loin que ça. Je vais me mettre en colère. Hein? Ah, Moses, lui. Tiens, si mes yeux étaient des fusils, des fois, là, il y en a qui. Il manquerait du monde dans la salle, peut-être. On ne le sait pas. Parce qu'on se met en colère. Si on ne retient pas notre colère, la colère se rend jusqu'où? Au meurtre. On contient notre colère? Ah, on est donc bon. Hein? On est bon, on contient notre colère. Non, Jésus nous dit, vous avez entendu dire, tu ne tueras point, mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère, là, il est aussi coupable que l'autre. Parce que la colère, si tu ne la contenais pas, c'est au meurtre que tu vas te rendre. Et donc, la racine du meurtre est dans la colère. Sonde ton cœur, puis regarde là, la colère que tu as. Tu es aussi coupable qu'un meurtrier. C'est ce que Jésus est venu amener. La loi du royaume est différente de la loi de Moïse. Dieu, la loi regarde à l'aspect extérieur. La loi regarde à l'aspect extérieur, la loi de Moïse. La loi du royaume regarde au cœur. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la loi du royaume, il n'y a plus aucune échappatoire possible. Tous sont coupables, n'est-ce pas? Alors, l'histoire du jeune homme riche illustre assez bien cette vérité-là, vous vous souvenez? Après que Jésus eut énuméré les commandements à suivre, le jeune homme riche dit, « Mais j'ai observé toutes ces choses. » Ce qui était orgueilleux? Ce qui était... ce qui exagérait? Non. C'était possible d'accomplir extérieurement la loi de Moïse. Et de ne pas tuer, puis avec les pharisiens puis les scribes qui avaient établi les lois d'une manière tellement... Puis vous savez, le principe des scribes et des pharisiens, c'était, si la loi me dit de ne pas me rendre jusqu'à cette ligne-là, pour être sûr de ne pas me rendre là, moi, je vais mettre la ligne encore plus loin. Comme ça, je suis sûr que je ne me rendrai pas là. Faut pas dire le nom de Dieu en vain. Bon, mais dans la Bible, là, à chaque fois qu'il y a le nom de Dieu, là, je ne le dirai pas. D'un fois que je le dirai en vain, je vais le remplacer par un autre mot qui est Seigneur, qui est Adonai à la place. Et c'est pour ça que, à côté ou en haut du tétragramme Yahvé, ou YHWH, il y avait des voyelles qui étaient les voyelles du mot Adonai. Et lorsque le lévite ou le rabbin ou peu importe qui lisait les Écritures et qui voyait le tétragramme, il ne disait pas le nom de Dieu, il disait Adonai. C'est pour ça que même aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait comment ça se prononce, le tétragramme. Il n'y a personne qui sait comment le nom de Dieu doit se prononcer parce qu'il avait tellement peur de l'utiliser en vain que Dieu met la ligne-là dans sa loi, puis les pharisiens, ils mettent la barre encore plus haute. Ça va être encore plus difficile. Donc, c'était possible pour quelqu'un, pour un observateur de la loi, de faire extérieurement ce que la loi demandait. C'était possible. Le jeune homme riche, lui, il n'est pas scrupuleux, il n'est pas gêné de dire que, regarde, tu me parles des commandements, moi, j'ai déjà tout fait ça. Alors, qu'est-ce qui manque? Il pouvait donc se conformer à la loi de Moïse, mais il était très difficile de se conformer à la loi du royaume. Jésus, lui, élève les standards, mais contrairement aux pharisiens et aux scribes, ce n'est pas des standards extérieurs que Jésus augmente. C'est les standards du cœur. C'est ça la loi du royaume. Tu veux te conformer à Dieu, tu veux satisfaire la loi de Dieu, la justice de Dieu, ben c'est dans le cœur que ça se passe. C'est pas extérieurement. Jésus donc élève les standards. On ne peut obtenir la justice du royaume en se conformant à la loi extérieure. Maintenant, la loi de la colère était une chose. La loi de la pureté maintenant, qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans Matthieu 5, 27 à 28. Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Une fois de plus, donc, la justice supérieure du royaume de Dieu est une justice de cœur opposée à une simple conduite droite. C'est pas suffisant de dire « Je n'ai pas été vers la femme de mon prochain. Si je l'ai regardé puis je l'ai convoité, je suis coupable devant Dieu. » Alors qu'il était possible donc de satisfaire aux exigences extérieures de la loi de Moïse, Jésus vient ajouter le motif du cœur, le désir, la convoitise. Il devient alors beaucoup plus difficile, voire impossible, de prétendre satisfaire à cette justice-là. Est-ce qu'il y en a ici qui vont me dire que, comme le jeune homme riche, « Mais j'ai déjà fait tout ça. » Si c'est la loi du royaume? Non, je ne pense pas qu'il y a personne ici qui va dire « Moi, je n'ai jamais péché selon la loi du royaume. » N'est-ce pas? Parce que dans le cœur, on le sait comment est-ce qu'on est. Pourtant, sans cette justice-là, sans cette justice de cœur, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Face à la loi du royaume, je suis coupable et j'ai besoin du pardon de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on prêche la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle du royaume? C'est quoi la bonne nouvelle? Ça, c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est quoi l'Évangile? Excusez, un à la fois. L'Évangile, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Non, c'est pas ça que je cherche. La grâce. Christ qui est mort pour nous. En fait, là, je suis complètement mêlé. Je ne sais même plus ce que je voulais entendre. C'est pour ça que vous... Peut-être que vous me l'avez dit, puis j'ai dit non. C'est ça qui est le pire. Non, non, mais... Oui, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sauvé du jugement. OK? Mais avant de recevoir une bonne nouvelle, ça prend quoi? Ça prend la mauvaise nouvelle, que je suis perdu. Comprenez-vous? Alors, la loi de Moïse, pour certains, devenait une pierre d'achoppement, comme le jeune homme riche, parce qu'il se disait, mais c'est quoi tu veux de plus? Je le fais. Donc, est-ce que j'ai un jugement sur ma tête? Non, j'ai toujours fait tout ce que la loi me demandait. Lorsque Jésus arrive, c'est plus possible de dire ça. On doit reconnaître qu'on est des pécheurs. On doit reconnaître qu'on est coupable. On doit reconnaître qu'on mérite le jugement. Et crier à Dieu pour que lui nous donne cette justice-là. Comprenez-vous? Donc, Jésus, en nous annonçant la loi du royaume, vient nous donner la possibilité d'accepter son salut puis d'accepter sa grâce. Parce que si j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin d'accepter le salut de Dieu. Si moi, je suis dans un bateau qui est en train de couler, puis j'ai pas l'impression qu'il est en train de couler, quand même qu'un autre bateau passera à côté puis qu'il me jetterait une bouée puis dit « Hey, tu coules! » Je vais dire « Qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas en train de couler pantoute. » Mais si je sais que mon bateau est en train de couler, par exemple, puis que Dieu m'arrive avec la bouée puis la solution, est-ce que j'ai cette possibilité de la saisir? Oui. Donc, cette loi du royaume est notre salut, en réalité, puisqu'elle nous fait réaliser qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'être sauvé. Et cette justice-là, donc, ne peut pas venir de nos propres œuvres, doit nous être donnée par Dieu. Donc, la loi de la colère, la loi de la pureté. Il est tellement important d'avoir la pureté du cœur pour entrer dans le royaume de Dieu que le verset suivant nous exhorte à fuir toute occasion de chute. On est toujours dans le même contexte, là, dans Matthieu 5, 29-30. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps, et que ton corps entier plutôt n'aille pas dans la géhenne. » Bon, première chose qu'on va regarder ou qu'on peut sortir de ces noter de ces versets-là, d'abord, c'est qu'il ne faut certainement pas les prendre littéralement. Êtes-vous d'accord avec moi? Faut pas, parce que là, ça... Déjà, moi, j'ai rien qu'un œil. Imaginez-vous, si c'est fallait que je m'enlève l'autre, je deviendrais aveugle direct là. Ça serait pas même le fun. OK? Non, on ne peut satisfaire à la justice du sermon sur la montagne en obéissant à la lettre extérieure de son enseignement. Le péché se trouve dans le cœur, pas dans notre œil, pas dans notre main. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Mais il nous enseigne aussi à fuir les occasions de chute. Si quelque chose est une occasion de chute pour moi, mieux vaut que je m'en sépare. La main et l'œil sont des exemples extrêmes pour dire qu'on doit renoncer à tout pour acquérir la justice du royaume. Le texte nous indique à quel point le péché est une affaire sérieuse et nous exhorte à prendre tous les moyens nécessaires pour garder notre cœur en se tenant loin de tout ce qui peut nous faire tomber. Ensuite, oui, Jean. L'occasion de chute est dans notre cœur, l'occasion de salut est aussi dans notre cœur. Et définis-moi ça.
C'est là qu'il faut faire la différence, c'est que si on est de nouveau, Dieu nous donne un cœur nouveau qui est rempli du royaume de Dieu. Et si on marche selon ce cœur-là, on va accomplir la volonté de Dieu.
Oui, alors c'est clair. J'essaie de résumer ça, là. Lorsqu'on est de nouveau, Dieu nous donne un cœur nouveau. Et c'est sûr que si on marche selon ce nouveau cœur-là, on va accomplir la volonté de Dieu. En fait, la loi du royaume se résume par deux commandements. Hein? Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça, tu vas l'accomplir, la loi. Alors, il y a une certaine simplicité quand même, hein, dans la loi du royaume. Et ça, il y a uniquement, évidemment, avec le cœur nouveau que Dieu nous donne qu'on peut arriver à accomplir ça. Et même si on ne l'accomplit pas parfaitement, Christ est notre justice et lui l'a accompli parfaitement. Restons encore dans les exemples que Jésus a donnés par rapport au divorce ici dans Matthieu 5, 31-32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors, Moïse avait permis le divorce, déjà en partant. Jésus nous dit que c'était à cause de la dureté de leur cœur, mais bref, il l'avait quand même permis. Mais plusieurs, à cette époque-là, comme de nos jours, abusaient de ce privilège-là pour se débarrasser de leur conjoint pour toutes sortes de raisons. Alors, j'aime pas le repas qu'elle me fait. Je trouve qu'elle cuisine mal, ma femme. Fait que je vais en répudier. Enfin, dans la titre, Moïse me l'a permis. Hein? Alors, il y avait toutes sortes d'abus comme ça qui faisaient en sorte que les gens, au lieu de faire ce qui est bien, ben, essayaient de tirer parti ou tirer profit de la permission qui leur avait été faite. Jésus vient donc remettre de l'ordre dans cette loi-là en faisant de nouveau ressortir les mauvais motifs du cœur. Donc, encore une fois, mettre l'emphase sur le cœur de l'homme. Pourquoi tu voudrais divorcer de ta femme? C'est une bonne question à se poser. Le divorce n'est autorisé dans ce cas-ci qu'en cas d'infidélité selon Jésus. Et il faut comprendre que dans l'Ancien Testament punissait l'adultère de mort. Hein? Lévitique 20:10 disait que si quelqu'un était surpris en adultère, il était lapidé, il était mis à mort. Alors le Nouveau Testament dit qu'une personne adultère peut être considérée comme morte et que le conjoint innocent est libéré de ses vœux de mariage comme si l'autre était mort. Alors, c'est une façon peut-être là, d'expliquer pourquoi est-ce que Jésus met la parenthèse en disant en cas d'infidélité, la loi disait que tu devais la lapider. Regarde, tu pourrais te remarier. Lapide-la pas, là, mais tu pourrais divorcer dans ce cas-là. Et c'est pas une loi, là, c'est pas en cas d'infidélité, mes boys, là, je vous demande de divorcer, là, parce que là, c'est vraiment inacceptable. Là. On comprend que c'est pas ça que Jésus dit, là. Hein? Mais il comprend que dans ce cas-là, il y aurait une raison de divorcer si notre cœur est trop dur. Parce qu'encore une fois, c'était à cause de la dureté du cœur que Moïse avait permis le divorce. Au niveau de l'honnêteté, la loi de l'honnêteté, dans Matthieu 5, 33-37. Alors, vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi, je vous dis de ne pas jurer ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, certains ont interprété ce passage-là en disant que si jamais il était convoqué à la cour, là, il faudrait surtout pas qu'il mette la main droite sur la Bible et dire « je jure hein, », parce que là, j'aurais juré. Alors, c'est pas ça du tout que ça parle ici. Okay? Ça parle d'être obligé de faire des serments pour que ta parole vaille quelque chose. T'es tellement menteur qu'il faut que tu me le jures pour que je te croie. Voyez-vous? C'est ça que le Seigneur condamne ici. Selon la tradition, des scribes, un homme pouvait se lier par une suite de serments et malgré tout violer sa parole sans être coupable. C'est assez aberrant. Si tu avais juré par les bonnes affaires, tu étais correct. Tu n'avais pas péché, même si tu n'avais pas tenu ta parole. La justice du royaume demande une intégrité de cœur. Ta parole devrait être digne de foi sans que tu sois obligé d'ajouter quelque chose. La loi de l'amour, dans Matthieu 5, 38-42. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi la gauche. Tends-lui aussi l'autre, en fait. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors ça, c'était la loi du talion. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire, le mot talion? Non. Talion, ça vient... Alors, l'origine du mot talion, c'est talis, qui en latin signifie tel ou pareil. Alors, je vais te rendre la pareille, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du pareil. Ce que tu fais, tu mérites qu'on te le fasse. OK? C'est une loi qui date pas de qui date même pas de Moïse, en réalité. Si on retourne... je crois, c'est bougez pas, là, c'est Hammurabi? Hammurabi, là, le code d'Hammurabi, exactement. Le code d'Hammurabi qui, selon toute vraisemblance, daterait d'un peu avant la loi de Moïse, était basé sur la loi du talion. Donc, c'est une loi extrêmement ancienne. C'est un principe de justice de base. Ce que tu fais, on va te le faire. Donc, le but de cette loi-là était évidemment de décourager les gens de mal agir, puisque ce que tu fais aux autres, c'est ça que tu mérites. Hein? Vous avez certainement même déjà entendu, fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Hein? C'est-tu biblique, ça? Est-ce que c'est biblique? Non, c'est pas biblique, fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Ça, c'est la loi du talion qui indique ça. Bibliquement, ça dit, fais aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Voyez-vous la différence? C'est notable, là. Hein? La loi du talion dit fais pas. La loi du royaume dit fais. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est pas mal différent de « fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'ils te fassent ». Le voyez-vous? Ça n'a rien à voir, en fait, même. Pardon? C'est dans le sens de donner l'exemple, exactement. C'est dans le sens d'être proactif. C'est pas juste de dire « ne mens pas, ne vole pas, ne touche pas ». Voyez-vous ça? J'ai tout fait ça, Seigneur. Hein? Le jeune homme riche, là, il avait tout fait ce que la loi demandait. Mais il manquait quelque chose. Il n'était pas proactif. Il faisait pas. Il n'y avait pas cette attitude de cœur que le royaume demande. De faire plus, d'être. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas juste de dire fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Donc, la loi du talion consiste à rendre au coupable selon ce qu'il a fait. Jésus a introduit à la place la loi de l'amour. Et encore ici, il ne s'agit pas d'appliquer le verset littéralement et sans discernement. Est-ce que Jésus a toujours montré l'autre joue quand il a été frappé? Non, du tout. Du tout. Jésus a été frappé, il n'a pas montré l'autre joue. Alors, ça veut-tu dire que si je suis frappé, il faut que je montre l'autre joue? Comprenez-vous que ce n'est pas littéral? Ce n'est pas un commandement. Si tu fais ça, là, si tu quelqu'un te frappe et tu montres l'autre joue, tu vas avoir fait la bonne affaire. Non, Paul nous dit même dans Corinthiens que quand même que je donnerais mon corps pour être brûlé en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je n'ai pas de mérite aux yeux de Dieu parce que je ne respecte pas la loi de Dieu telle que le Seigneur Jésus est venu nous l'enseigner, qui n'est pas une loi extérieure basée sur « fais ceci, fais cela, puis tu vas être correct ». C'est l'attitude du cœur qui fait la différence. Jésus, donc, n'a pas montré la joue à l'huissier lorsque l'huissier l'a frappé. Jean 8, 22-23, à ces mots, un des gardes qui se trouvait là donnait une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Et Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Le contexte de Matthieu 5, donc, nous dit de ne pas résister aux méchants, de ne pas nous défendre en frappant en retour, de tendre l'autre joue. On pourrait l'interpréter en disant, ce que ça veut dire, c'est, tu as reçu un coup, rends pas le mal pour le mal. Sois même prêt à en recevoir d'autres si c'est nécessaire. Tendre l'autre joue. Sois même prêt à en recevoir d'autres. Mais va pas frapper en retour. Rends pas le mal pour le mal. Paul reprend cet enseignement-là de Jésus dans l'Épître aux Romains, dans Romains 12, 19, 21. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors, c'est Paul qui dit ça. On voit donc que la loi de l'amour dépasse de beaucoup les exigences de la loi de Moïse. Notre Seigneur veut qu'on soit complètement délivré de tout esprit de vengeance personnelle. C'est ça la justice du royaume. La loi de l'amour est encore exprimée dans le verset de Matthieu 5, 43-45, où il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » C'était la loi qui disait ça. OK? Mais moi, je vous dis, en fait, ce n'était pas la loi qui disait ça, pour être franc, non? C'était une déduction que les rabbins, que les scribes avaient faite. Juste pour vous dire, je ne voudrais pas être dogmatique là-dessus, il faudrait aller vérifier, mais il me semble, si ma mémoire est bonne, que ce n'est pas écrit dans la loi « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Vous avez entendu dire qu'il a été dit par les anciens cela, et c'était une déduction que les anciens avaient fait, parce qu'évidemment, les ennemis, ils allaient en guerre contre, hein, donc ça serait gênant de dire « Tu vas aimer ton ennemi ». Donc c'était une déduction, si je ne m'abuse. Il faudrait peut-être vérifier ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Vous voulez faire ce que Dieu vous demande? Vous voulez accomplir la loi de Dieu? Aimez vos ennemis. Si vous faites ça, vous allez être les fils de votre Père. C'est le cœur qui compte, c'est pas l'apparence extérieure. L'amour doit toujours être le principal motif de nos attitudes et de nos actions. Paul reprend évidemment l'enseignement de Jésus sur le caractère essentiel de l'amour dans 1 Corinthiens 13, que j'ai cité un petit peu tantôt. Hein, l'amour est patient, etc. Ça nous décrit quelle est cette attitude de cœur que le Seigneur nous demande d'avoir. On retrouve la manifestation suprême de cette loi d'amour dans le pardon, évidemment. La parabole du méchant serviteur de Matthieu 18, 23 à 34 nous enseigne comment on doit pardonner parce que nous avons été pardonnés le premier. Vous vous souvenez de la parabole? Hein, le roi a remis une fortune, je me souviens plus, du 50 000 talents, ou je ne sais pas trop, ça valait des millions. Et le serviteur, il s'est retourné de bord, puis il a vu un de ses collègues qui devait 50 piastres, puis il l'a fait jeter en prison. Hein? Alors, cette parabole-là avait un but, c'était de nous enseigner que comme Dieu nous a pardonné, nous aussi, on doit pardonner aux autres. Et Jean 1, Jean 4, 19 nous dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Donc, Jésus est venu nous a donné un exemple. Il n'est pas juste venu nous dire, « Voici la loi du royaume, voici ce que vous devriez faire. » Il l'a fait lui-même. Et fort heureusement, il l'a fait d'une manière parfaite qui fait en sorte que la justice de Dieu qui lui a été donnée à Jésus peut nous être imputée à nous si on accepte le Seigneur. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que la justice du royaume exige qu'il n'y ait aucun mal dans mon cœur envers le prochain. Ça, c'est un défi. En ce qui a trait à la pureté du cœur, il est évident qu'ici encore, on a des critères de justice qui dépassent ce que l'homme seul peut accomplir. Le divorce et le remariage, pour tout autre motif que l'infidélité, est un péché, même si la loi de Moïse le permettait. La justice du royaume demande une intégrité de cœur. La justice du royaume demande qu'on rende le bien pour le mal qu'on reçoit. Jésus nous a enseigné donc que la justice du royaume ne se limite pas à une apparence extérieure de justice, mais qu'elle devait se manifester au plus profond du cœur de l'homme, le cœur nouveau, comme disait Gérard tantôt. C'est là que doit se manifester, c'est là que se manifeste la justice de Dieu, et c'est là qu'on doit puiser, par l'exemple que Christ nous a donné, la force aussi par le Saint-Esprit de faire ces choses-là, de faire ce que le Seigneur nous demande. Le point marquant de l'enseignement de Jésus concerne la justice nécessaire pour entrer dans le royaume. Personne donc ne peut prétendre accomplir la loi du royaume et ainsi satisfaire sa justice. En élevant les critères comme Jésus le fait, Jésus est venu nous dire à tout le monde, peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensiez que vous pouviez accomplir la loi d'une manière extérieure, mais laissez-moi vous dire que ce que Dieu demande, il n'y a personne ici qui est capable de l'accomplir. Personne. Vous êtes tous coupables, vous méritez tous le châtiment, et Christ est venu apporter donc la seule solution. Sylvain? Un verset, vas-y. OK, Jacques qui dit celui-là donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché, ça va dans le sens d'être proactif, de dire c'est pas rien que tu fais pas aux autres ce qu'il veut pas que les autres te fassent, mais plutôt tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le. Oui. Absolument, on a absolument besoin de Christ, c'est clair. Donc, pourtant, malgré le fait que cette justice Lorsque des prises sans la grâce, évidemment, nous condamnent et qu'on ne peut atteindre une telle justice par nous-mêmes. Pourtant, c'est la justice que le royaume de Dieu exige et la justice que Dieu exige de nous. Et il doit nous la donner, sinon on est perdu. La justice du royaume de Dieu, c'est le résultat du règne de Dieu dans le cœur humain. Dieu doit régner dans nos vies dès maintenant si on veut entrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Et il est évident qu'une telle justice de cœur ne peut être qu'un don de Dieu. Dieu doit donner ce qu'il exige. Et quand on se soumet au règne de Dieu, le miracle de la nouvelle naissance se produit dans le cœur humain. L'Esprit Saint crée une nouvelle vie, nous donne ce cœur nouveau. On est une nouvelle créature. Et le serviteur qui est soumis au règne de Dieu va faire l'expérience d'une part réelle et évidente de la justice du royaume dans cet âge mauvais. À chaque fois que vous accomplissez cette loi de grâce, à chaque fois que vous aimez votre prochain, à chaque fois que vous êtes capable d'aimer le Seigneur, c'est la preuve que vous avez reçu cette justice de Dieu. Dieu nous manifeste, on fait cette expérience de la justice du royaume à chaque fois qu'on peut le faire. Jésus nous donne cette possibilité-là, Jésus nous donne sa justice et c'est lui en fait qui est notre justice. Alors ça conclut notre étude pour cette semaine. Je rappelle que, il reste quelques minutes, partez pas. Je vais peut-être faire une petite parenthèse d'une parabole que j'ai lue cette semaine. Je vous rappelle donc que ceux qui ont pas reçu les courriels, c'est parce que j'ai eu une panne informatique qui fait en sorte que mon programme de mon logiciel de courriel ne veut pas démarrer. Et si je réussis pas à leur partir, ça veut dire que j'ai avoir perdu tous vos contacts. Donc, c'est possible la semaine prochaine que je vous redemande de me redonner vos courriels pour que je puisse les re-rentrer et vous les envoyer. Et en attendant, la leçon d'aujourd'hui est disponible sur le site Internet. En fait, va être disponible peut-être un peu plus tard, au moins. Est-ce que c'est déjà là? Samuel? L'audio va être plus tard, mais l'écrit que je t'ai envoyé hier? Pas encore, en tout cas. Dans le courant de la journée, le texte va être là aujourd'hui. Donc, vous pourrez aller sur le site de l'Église pour aller chercher les notes que je ne vous ai pas envoyées par courriel. Et j'espère, dans les prochaines semaines, être capable de combler ce problème-là. Revenons brièvement aux paraboles. Je vous fais un partage, parce qu'on a encore un petit peu de temps. On a parlé que les paraboles nous enseignaient un mystère caché par rapport au royaume de Dieu. Okay? Pas toutes les paraboles. Il y a des paraboles qui nous montrent juste des exemples, comme le bon samaritain, etc. Mais plusieurs paraboles nous révèlent un mystère caché du royaume. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça? Cette semaine, ma femme lit Luc 13, 6. OK? Et dans un contexte de jugement où, je vais vous lire à partir du verset 1, tiens. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui s'était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Un jugement ici que Jésus annonce. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Et il dit aussi cette parabole, donc, au verset 6 de Luc 13. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette parabole-là? Ouh! Hein? Un contexte de jugement? Alors, je vous donne l'exercice, là. Quel était le royaume qui était annoncé dans l'Ancien Testament? Et qu'est-ce que cette parabole-là vient nous révéler de nouveau par rapport au royaume qui était annoncé dans l'Ancien Testament? OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prier pour lui, je vais intercéder pour lui. S'il ne se repent pas, tu le couperas. Oui, oui. Qui va voir s'il va réagir à ça? L'âme. OK. C'est correct? Allons voir ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parabole-là? En fait, qu'est-ce que cette parabole-là m'enseigne de nouveau par rapport au royaume qui est annoncé dans l'Ancien Testament? Oui? La grâce, voilà. L'Ancien Testament, on attendait un royaume qui va faire quoi? Qui va détruire tous les autres royaumes, qui va venir anéantir les ennemis, qui va s'établir sur toute la terre. Le jugement arrive, mes amis. Ça, c'est le royaume qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Le Messie arrive, le jugement arrive. Jésus amène une révélation nouvelle. Oui, il va y avoir un jugement, mais en attendant, il y a une période de grâce qui n'est pas un an, qui est depuis que le Seigneur vienne. On est en l'an de grâce 2011. Hein? On a perdu cette notion de l'an de grâce, mais on est vraiment dans une période de grâce où Dieu appelle, où Dieu creuse tout autour, où Dieu prend soin, où Dieu veut que les hommes portent du fruit. Mais à la fin, s'ils n'en portent pas, il va y avoir le jugement. Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de la même façon, dit Jésus, quelques versets auparavant. Alors voyez-vous, il y en a qui vont prendre cette parabole-là et qui vont dire, attends un petit peu. 3 ans, ça c'est les 3 ans du ministère de Jésus. Puis le vigneron, c'est un tel. Puis le... Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Si les 3 ans, c'est le ministère de Jésus, c'est quoi l'année supplémentaire? C'est quoi? Ça veut rien dire. Non, cette parabole-là nous parle du royaume de Dieu qui est annoncé et nous révèle un mystère caché. C'est qu'avant d'en arriver au jour du jugement, il y a une période de grâce où Dieu espère des fruits, où Dieu prépare les cœurs, Dieu prépare le terrain et Dieu veut voir des fruits. Et ceux qui n'auront pas porté de fruits, ils vont être jugés. Une petite réflexion comme ça en passant. Alors, bonne fin de journée et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à vous.